Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le retour des talibans en Afghanistan semble clore une période de 20 ans ouverte par l'effondrement des tours du World Trade Center à New York et consacrée sous l'influence des néo-conservateurs américains à la démocratisation par la force du monde arabo-musulman. L'idée était que la démocratie devait chasser l'islamisme radical. L'Afghanistan puis l'Irak furent les deux laboratoires de ce projet. 20 ans plus tard, la guerre afghane a abouti à l'effondrement du régime d'Ashraf Ghani. Celle d'Irak a conduit à un État irakien faible, corrompu, contesté, mais vainqueur de l'État islamique. Regard avec nos invités. Par téléphone, Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Son dernier ouvrage, L'Irak, un siècle de faillite, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, qui a vu le jour en Afghanistan en 1980. Alain Boinet, qui, je précise, intervient dans cette émission à titre personnel. Bonjour Alain.
Bonjour Marie-France Chatin.
Également Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère, co-auteur avec Elie Tenenbaum de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, aux éditions Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Et Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour et merci de nous accueillir.
Au lendemain du 11 septembre 2001, nul n'a contesté la légitimité de la riposte américaine en Afghanistan, d'ailleurs validée par l'ONU. Les talibans ne suscitaient guère de sympathie avec leur islam obscurantiste. Appuyé par l'Alliance du Nord, l'occupation du pays fut rapide et consensuelle. L'Irak, 2 ans plus tard, en 2003, fut une autre histoire. Absence de mandat onusien, accusation de mensonges américains sur les armes de destruction massive. La guerre en Irak divisa les États membres et mobilisa les opinions publiques. L'occupation même du pays abîma l'image de l'Amérique. 20 ans plus tard, quel bilan faire de la situation dans ces deux pays ? Situation politique, bien sûr, également sociale. Comment ces pays ont-ils évolué ? L'Afghanistan depuis 2001, l'Irak depuis 2003. On va commencer avec vous, Alain Boinet, sur l'Afghanistan. Les talibans ont donc repris le pays et occupé Kaboul à partir du 15 août dernier. D'aucuns en Afghanistan parlent d'invasion du Pakistan et de complicité des Occidentaux. Quelle est votre réaction ?
Le Pakistan a toujours soutenu d'abord la résistance afghane, à l'époque du général Ziaullah, quand il était le président du Pakistan, avec le soutien d'ailleurs des États-Unis, des pays membres de l'Union européenne dont certains étaient très engagés dans le soutien à ces combattants, Moudjahidine, les combattants de la foi, les combattants de la liberté contre l'Union soviétique. Et le choix du Pakistan, c'était de soutenir une résistance contre l'Union soviétique alliée de l'Inde, avec toute la problématique que ça pose pour les Pakistanais. Ils sont toujours restés finalement sur cette position. Donc, bien sûr qu'il y a un soutien pakistanais, encore aujourd'hui, mais c'est pas une invasion. Les gens qui font la guerre en Afghanistan, c'est des talibans afghans qui ont pris le pouvoir à Kaboul et tous les Afghans le savent. Donc il faut être sérieux quand on dit les choses parce que ça c'est vraiment de la désinformation. Oui, il y a un soutien des Pakistanais qui peut aller assez loin. Il est allé très loin à l'époque des Moudjahidines contre l'URSS. Mais aujourd'hui, c'est les talibans afghans, ce sont des Afghans qui ont pris le pouvoir à Kaboul.
Et Elie Tenenbaum ?
Oui, je pense que c'est clair que pour comprendre l'attitude pakistanaise, Alain Boinet l'a dit à l'instant, la boussole stratégique du Pakistan est, depuis la naissance du pays, pratiquement la question indo-pakistanaise, avec des questions essentielles, le Cachemire par exemple, qu'on connaît. Et la vision de l'Afghanistan a toujours été de se prémunir contre une éventuelle alliance de revers, qui a été ancré d'ailleurs dans un certain nombre de pans de l'histoire de la région. Hein. Il y a des liens historiques entre l'Afghanistan et l'Inde qui font craindre ça. Il y avait évidemment des associations, et c'est arrivé jusque récemment. D'ailleurs, le régime d'Hamid Karzai et d'Ashraf Ghani avait signé un partenariat stratégique avec l'Inde, ce qui fait que ce spectre planait toujours sur l'obsession pakistanaise. Kissinger disait que même mes paranoïaques ont de véritables ennemis, et ça peut exister. Mais en tout cas, c'est ça qui a toujours motivé le choix pakistanais de soutenir un certain nombre de groupes, notamment les factions islamistes les plus radicales, dont ils étaient convaincus d'une certaine manière qu'ils ne seraient pas tentés par une alliance avec l'Inde. Et effectivement, et ça leur a coûté cher d'ailleurs aux Pakistanais, parce que ça a créé une forme de déstabilisation sur leurs frontières orientales, sur la ligne Durand. Il y a eu des groupes factieux dont ils ont perdu le contrôle à certains moments. Les relations avec les talibans n'ont pas toujours été simples. On parlait hier dans l'émission de l'arrestation du Mollah Baradar en 2010 par les Pakistanais, précisément comme un moyen de pression pour s'assurer une forme de contrôle sur la Shura de Quetta, qui était donc basée au Baloutchistan pakistanais, le grand centre de commandement des talibans afghans. On a eu une forme de spin-off des talibans avec les talibans pakistanais basés dans les zones tribales, qui ont mené une insurrection extrêmement dure contre le Pakistan, contre l'armée pakistanaise. Il faut se souvenir aussi, même à Islamabad, de l'assaut de la mosquée rouge en 2007. Enfin, c'est des moments quand même qui montrent que les relations entre les Pakistanais, l'appareil de sécurité pakistanais et les militants djihadistes locaux, afghans, pakistanais eux-mêmes, et puis ensuite la partie transnationale de tout ça, qui sont les combattants d'Al-Qaïda, a toujours été à la fois extrêmement étroite dans la relation et en même temps extrêmement ambiguë, avec un jeu de manipulation mutuelle. Je veux dire, chacun instrumentalise l'autre dans cette affaire, et qui ne permet pas, on va dire, de tracer, voilà, de grands traits en disant ce sont les Pakistanais qui sont entrés à Kaboul. Effectivement, on a eu la visite du chef de l'ISI, des services de renseignement pakistanais, à Kaboul récemment, qui a fait beaucoup gloser, mais c'est aussi bien pour désamorcer un attentat qui a eu lieu récemment du TTP, donc des talibans pakistanais, contre une caserne pakistanaise, de l'armée pakistanaise, que pour effectuer les relations avec le nouveau régime taliban à Kaboul. Donc, je veux dire, tout ça est compliqué quand même.
Alors, Alain Boinet, je reviens avec vous sur, on poursuit sur l'Afghanistan, on parlera de l'Irak après, parce que nous avons Adèle Bakawan au téléphone. Alain Boinet, l'Afghanistan, vous le connaissez depuis 1980. Quel regard portez-vous sur le retrait américain, la façon dont les talibans sont revenus en Afghanistan, on prit Kaboul, l'évolution peut-être du pays depuis le début de la guerre en 2001.
Alors d'abord, en introduction, je voudrais dire une chose qui paraît peut-être évidente à tous les auditeurs de RFI, c'est que c'est la condamnation du terrorisme, quelles qu'en soient les causes. Hein, pour un humanitaire, ça ne vous étonnera pas, mais pour moi, c'est vraiment pas une arme de guerre acceptable. Et puis, je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes ces Afghanes et ces Afghans qui ont quitté leur pays. On s'exile jamais sans souffrance. Certains sont encore là-bas. Il faut souhaiter, bien sûr, qu'ils puissent sortir. Et il faut saluer l'accueil des pays qui les reçoivent. Ceci étant dit, on est tenté de dire, comme beaucoup le pensent, tout ça pour ça. Parce qu'en fait, on a l'impression de revenir à la case départ. Et la question aussi, c'est quelle est la responsabilité, bien sûr, des Afghans dans leur diversité, mais quelle est notre responsabilité? Moi, je voudrais juste refaire très rapidement le film. Quand les talibans prennent le pouvoir en 1996, Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, ils sont là depuis longtemps. Ils ont d'ailleurs été envoyés, ou quelque sorte, ou sollicités pour l'Afghanistan par le prince Turki Al-Faisal, le chef des renseignements saoudiens, avec le soutien de la CIA et des Américains, pour combattre contre les Soviétiques en 1987. Deux ans avant le départ des Soviétiques, ils créent Al-Qaïda. C'est assez intéressant de voir ce calendrier, parce qu'ils avaient déjà manifestement anticipé, en tout cas si on regarde les dates. Donc les talibans découvrent Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, qui était le prolongement de ces combattants arabes qui ont été envoyés en très grand nombre en Afghanistan pour lutter contre les Soviétiques. Je voudrais à ce sujet dire une chose, c'est que les moudjahidines afghans à l'époque n'avaient pas besoin de combattants supplémentaires. Ils en avaient énormément. Ils pouvaient renouveler leurs pertes sans problème. Je pense que ça a été une faute énorme d'envoyer ces combattants arabes en Afghanistan. J'en ai croisé dans beaucoup de régions, aussi bien à Kandahar que chez Massoud, d'ailleurs dans le Panjshir. J'ai vécu avec eux, j'ai été avec eux, avec les Moudjahidines, quand nous faisions nos opérations d'aide humanitaire, parce que c'était assez imbriqué par nécessité. Et j'ai jamais compris pourquoi on avait fait le choix de les envoyer, notamment le choix des Américains, parce que c'était un choix extrêmement dangereux à moyen long terme. Et puis, au moment, après le retrait des Soviétiques en février 89, alors il y a un désengagement complet des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est à l'époque où Ben Laden ne reçoit plus d'aide de l'Arabie Saoudite. Donc on abandonne l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, c'est pas stratégique. On a vu depuis que c'était pas stratégique, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quand même une erreur fondamentale. L'Afghanistan, c'est pas stratégique, c'est des montagnes, c'est des bergers, c'est des nomades, des agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe pour qu'en 40 ans, l'Union soviétique puisse, les Américains interviennent là-bas? Et donc, voilà, les talibans en 96 trouvent Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. Je rappelle aussi que c'est pas eux qui l'ont accueilli, c'est les Pakistanais qui l'ont laissé venir, mais c'est aussi le professeur Rabbani, Ostad Rabbani, qui dirigeait le Jamiat Islami, le parti de Massoud, qui a donné son accord pour qu'il reste en Afghanistan. Donc vous voyez, il faut un peu raconter l'histoire dans les grandes lignes telles qu'elle est, plutôt que de se languer des slogans complètement erronés. Donc, moi je voudrais dire une chose, c'est que les talibans, d'après les informations que j'ai, n'étaient pas informés du projet d'attentat contre le World Trade Center et n'y ont pas participé. Ils ont fait la grave erreur de poursuivre l'accueil qu'ils avaient donné à Ben Laden au nom du Pashtunwali, c'est-à-dire au nom du code d'honneur des Afghans, parce que Ben Laden s'était battu contre les Soviétiques avec lui et que beaucoup de combattants arabes sont morts. Moi, j'en ai vu dans les combats que Massoud menait à l'époque. Et donc, ils ne pouvaient pas le livrer. Ils auraient dû lui demander de partir et de régler le problème comme ça. Ça, c'était une très, très grave erreur. C'est par méconnaissance, probablement, du monde extérieur. Et je voudrais ajouter une chose qui est très importante pour l'avenir, c'est que entre 96 et 2001, les talibans ont été extrêmement isolés. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Le régime d'avant est aussi un régime qui n'avait pas été élu par des élections. Hein. Il a pris le pouvoir par la force, contre Najibullah et le Parti communiste afghan en avril 1992. Donc, ce régime est extrêmement isolé. Et le réseau de Ben Laden, Al-Qaïda, lui offrait une ouverture sur le monde extérieur dont il s'est servi. Je dis ça pas pour faire de l'histoire ancienne, mais parce que la question va se reposer maintenant dans les relations qu'on entend avoir avec l'Afghanistan, dont les talibans ont pris le pouvoir, parce que les mêmes questions vont se reposer, notamment au niveau du terrorisme.
Marc Ekker, très rapidement, après ça, je passe la parole à Adel Bakawan.
Un tout petit point, parce qu'on est au moment des commémorations du 11 septembre 2001, et comme vous le savez, l'effondrement des tours du World Trade Center a suscité énormément de théories du complot, notamment le fait qu'Al-Qaïda avait été créé par la CIA, que Ben Laden était tenu par les Américains, etc. Je pense qu'il faut quand même rappeler que dans la phase historique du djihad en Afghanistan des années 80, les combattants arabes n'ont pas été envoyés par les Américains. Les Américains ont vraiment soutenu les Moudjahidines, mais pas directement les combattants arabes qui sont venus très largement par eux-mêmes. Ce sont des réseaux de solidarité transnationaux qui ont été mis en place, financés en partie par les Saoudiens, notamment Ben Laden d'ailleurs, qui a financé lui-même directement le bureau des services d'Abdallah Azam, qui peut être considéré, pour simplifier, comme l'ancêtre d'Al-Qaïda. Voilà, je crois qu'il ne faut vraiment pas donner de grain à moudre aux théories du complot en disant que les combattants arabes auraient été envoyés par les Américains.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, je le disais en introduction, première riposte des États-Unis aux attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. L'invasion de l'Afghanistan dans la foulée de ces attentats. Puis, deux ans plus tard, l'Irak. Adel Bakawan, comment résonne en Irak la situation créée par le retrait américain d'Afghanistan? Et est-ce que la situation afghane est transposable en Irak?
La réponse, c'est non, clairement non, parce que c'est vrai, il y a des convergences entre les deux situations. Les deux pays ont été occupés en 2001 et 2003 par les États-Unis d'Amérique, qui ont mis en place un régime politique basé, comme je le dis toujours, sur la milicisation de l'État et la systématisation de la corruption. Mais au-delà de ces convergences, la divergence, les divergences sont énormes. Je ne vais pas les citer, mais la plus grande, c'est que aujourd'hui, vous avez un Irak totalement divisé, profondément, structurellement divisé, divisé territorialement, administrativement, ethniquement, confessionnellement, hein, politiquement, culturellement, socialement, à tous les niveaux, l'Irak est divisé, numéro un. Numéro deux, dans cette grande division structurelle, vous n'avez pas un mouvement de type taliban, national, puissant, déployable sur la totalité du territoire national. Vous avez bien évidemment de grands acteurs, l'Organisation de l'État islamique, hein, une organisation terroriste. Dans le meilleur des cas, cette organisation peut se déployer dans le territoire sunnite. Vous avez également Al-Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire la mobilisation populaire, avec 75 organisations intégrées dans cette plateforme. Dans le meilleur des cas, encore une fois, cette plateforme peut se déployer de Bassora à Bagdad, avec un soutien de l'État irakien dans certains territoires sunnites, mais jamais dans le nord kurde. Alors, dans cette configuration irakienne, le scénario afghan est peu probable, pour ne pas être catégorique.
Alors, on évoque tout de même un départ plus ou moins définitif des Américains ?
Écoutez, ce départ n'est qu'un départ sur le papier, parce que depuis, tout d'abord, ce n'est pas un départ américain. C'est ce qui a été signé avec le premier ministre irakien, c'est le départ des troupes combattantes. Et on sait très bien, depuis fin 2017, janvier 2018, les troupes combattantes américaines n'ont jamais participé à un seul combat au sol, hein. Et donc la seule participation américaine, c'est le soutien, c'est l'accompagnement, c'est la formation, le contrôle de l'espace irakien. Toutes ces catégories d'actions resteront au-delà du 31 décembre. Le 31 décembre, normalement, théoriquement, le dernier combattant américain quittera le sol Irak. Mais cet accord est beaucoup plus symbolique que pratique ou concret. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un cadeau offert à un premier ministre considéré comme pro-américain, à savoir Mustafa al-Kazemi, aujourd'hui qui nous dispose aucun levier à l'intérieur du pays. C'est un premier ministre, c'est le plus faible premier ministre depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, qui ne dispose pas un parti politique, qui n'a pas des députés à l'Assemblée nationale, qui n'a pas une base sociale et qui n'a pas une histoire dans le champ politique irakien. Alors, le seul levier dont Al-Kazemi dispose, c'est le seul soutien international, notamment des États-Unis d'Amérique. On lui offre un accord du départ des troupes combattantes américaines le 31 décembre pour pouvoir peser, hein, face à ces organisations miliciennes qui prennent l'État irakien en otage.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur ce que vous dites dans votre ouvrage, Adel Bakawan, c'est la question même de l'existence de l'Irak qui est aujourd'hui posée, et pourquoi cette faillite. Pour terminer cette première partie, Elie Tenenbaum, un commentaire sur ce que vient de dire Adel Bakawan.
Oui, sur la comparaison entre les deux théâtres, je pense que c'est exactement ça. On a deux pays qui étaient assez fragmentés, finalement. La grande force des talibans qui explique leur succès aujourd'hui, ça a été leur capacité finalement à réunifier le pays, notamment par exemple sur le plan ethnique. On avait un mouvement taliban qui était majoritairement pachtoun historiquement. Ils ont réussi à se dépachtouniser, à recruter des gens issus de toutes les composantes de la société afghane. Ils ont même réussi à avoir un wali, un gouverneur Hazara, enfin chiite. Donc ça montre vraiment l'émancipation du mouvement. Alors qu'au contraire, l'État islamique en Irak a joué à fond la carte sectaire et communautaire, et c'est complètement enfermé sur son identité arabe sunnite et est devenu l'un des instruments, avec le gouvernement irakien historiquement de Nouri al-Maliki et les autres qui ont suivi, avec la dynamique chiite, communautaire chiite. Et aujourd'hui, on a un Irak totalement fragmenté, alors que paradoxalement, on a un Afghanistan qui est un petit peu réunifié par les talibans.
Alors, pas à la lecture de son gouvernement, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve Elie Tenenbaum, Alain Boinet, Marc Ecker et Adel Bakawan. Après le journal, à tout de suite.
Priorité santé.
Caroline.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Afghanistan et l'Irak. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Son dernier ouvrage, L'Irak, un siècle de faillite, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Alain Boinet, fondateur de Solidarité internationale, qui a vu le jour en Afghanistan. Alain Boinet qui, je le précise, pour cette émission, intervient à titre personnel. Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI et co-auteur avec Marc Ecker de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle chez Robert Laffont, et Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Elie Tenenbaum a terminé la première partie de l'émission sur le comparatif entre l'Afghanistan et l'Irak et évoqué cette capacité qu'ont les talibans de réunifier l'Afghanistan. Ce qu'on constate, c'est que cette semaine, les talibans ont annoncé les noms des principaux dirigeants qui formeront le gouvernement intérimaire afghan. Alors, pourquoi gouvernement intérimaire? En tout cas, tous sont des membres de la vieille garde talibane ou des mollahs proches du mouvement. Ils font pour l'essentiel partie de l'ethnie pachtoune, dont sont issus la plupart des talibans. Aucun hazara, ni aucun ouzbek, pas davantage de tadjik ne figurent sur cette liste. Pas beaucoup de place pour la diversité. Alain Boinet.
Alors d'abord, n'oublions pas que là, on sort de 20 ans de guerre. Donc les talibans, ils se sont battus contre leurs ennemis. Donc c'est pas facile de faire la réconciliation à la fin d'une guerre. Puis qui dure depuis 40 ans d'ailleurs, avec toutes les divisions que l'on a connues. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le nouveau gouvernement, en tout cas ses principales figures, illustrent bien le mouvement historique taliban. Mais l'enjeu pour eux, c'était d'abord d'être unis entre eux. Parce qu'en fait, il y a au moins trois grands courants dans les principales personnalités. Il y a la choura de Quetta, qui est la choura, disons, des Kandahari, où est né le mouvement taliban, dans le sud-ouest du pays. Il y a aussi un fidèle du Mollah Omar, le Mollah Baradar, mais qui est quelqu'un de assez ouvert, voire très ouvert pour un Afghan. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il avait été arrêté par les services de renseignement pakistanais à Karachi parce qu'il préconisait à l'époque des liens directs, des discussions directes entre le mouvement taliban et le gouvernement de Kaboul. Il a été presque 10 ans en prison. C'est les Américains qui l'ont fait libérer pour négocier à Doha. Donc ça raconte des choses. Et puis, il y a bien sûr le réseau Akhani. Et ça, c'est évidemment un très mauvais signe envoyé à la communauté internationale, parce que c'est un réseau qui a été lié à Al-Qaïda, mais Al-Qaïda combattant les Soviétiques. Et puis après, Al-Qaïda, c'est autre chose. C'est Oussama Ben Laden, c'est les attentats du Control World Trade Center. Donc, la question, par exemple, c'est quelle va être la répartition des rôles entre le Mollah Haroun, en charge de l'exécutif, et le Mollah Baradar. Haroun, c'est d'abord un militaire, un religieux. Donc, est-ce qu'il va laisser la place à Mollah Baradar? En tout cas, ils sont tous les deux là. Ça, c'est un signal politique. Bon, ils étaient obligés de se réunir parce que le premier problème, c'est l'unité entre eux. Le risque, ça serait une désunion qui déboucherait sur un morcellement et qui, sur une reprise de la guerre généralisée.
Alors, le fait qu'ils soient là tous les deux, Alain Boinet, un décryptage rapide?
Le décryptage, c'est que c'est un équilibre entre une position, je dirais, conservatrice, rigoriste, taleb, et puis le Mollah Baradar, très ouvert à la fois sur la scène politique intérieure afghane. Il y a des discussions qui ont lieu avec Hamid Karzai, qui ont lieu avec Abdullah Abdullah, Doha, etc. N'oublions pas qu'ils ont proposé deux postes à Arman Massoud de la vallée du Panjshir, et que celui-ci a répondu qu'il n'avait même pas considéré leur proposition. La guerre a duré, ils l'ont perdu. Ils ont pris des risques absolument énormes, ils auraient pu accepter les postes. Donc peut-être qu'il faut laisser un peu de temps au temps, prendre les talibans au mot, vous voulez une ouverture, intérieur, extérieur, prouvez-le, et puis on va le voir dans les discussions. Voilà. Il ne faut pas se fier immédiatement à cette première impression. Le Mollah Baradar a peut-être plus d'importance qu'on ne le pense. Ils n'ont peut-être pas voulu le mettre en avant pour des problèmes d'équilibre interne. C'est la suite qui va le dire.
Marc Ecker, vous souhaitez faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit?
En tout cas, si on essaie de prendre du recul, et là encore, de voir ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, le modèle d'intervention américain et plus largement occidental, on voit qu'il y a une difficulté entre l'idée qu'il faut laisser les acteurs locaux se débrouiller en les soutenant, mais en même temps, une incapacité à accepter certaines tendances profondes des populations, des volontés populaires. Et jamais une insurrection ne gagne sans une partie au moins de soutien populaire. Et dans le fond, quand on voit qu'il y a certaines tendances qui ne nous plaisent pas, entre guillemets, qui prennent le dessus, on essaye de forcer la main dans l'autre sens. Mais on voit que ça ne fonctionne pas. Et qu'au final, les institutions finissent par soit s'effondrer, soit produire encore plus de récriminations populaires qui nourrissent la frustration et l'insurrection.
Alors, on en parlera, mais la question évidemment qui se pose pour les Occidentaux est de savoir que faire avec les talibans. Est-ce qu'il faut les ignorer, couper toute relation, isoler le nouveau pouvoir? On y reviendra. Adel Bakawan, Irak, un pays très fracturé, vous le dites dans votre ouvrage, la question même de l'existence de l'Irak est aujourd'hui posée. Pourquoi cette faillite et quels sont les défis aujourd'hui pour l'Irak?
Bah, écoutez, l'Irak, malheureusement, a ses propres démons qui ne sont pas partageables avec les autres pays, y compris l'Afghanistan. Aujourd'hui, le premier démon, la première menace qui pèse lourdement sur l'Irak, c'est la menace de la guerre civile. Ce n'est même pas le premier dossier, n'est pas le retour en force de l'organisation de l'État islamique, même si ce retour est constaté tous les jours selon notre base de données, un peu partout dans les provinces disputées, dans les provinces sunnites et même à Bagdad. Donc la première menace, je dirais, c'est la guerre civile. Surtout à partir du 10 octobre de cette année, lorsqu'on entre dans les élections, le processus des élections législatives. Pourquoi cette guerre civile? Parce que tout simplement, la société irakienne est profondément militarisée et divisée. Divisée entre au moins sur trois écoles. L'école pro-iranienne, l'école de la Marjaïa et l'école de nationalistes irakiennes. Ces trois écoles qui ont des représentants politiques et surtout sont lourdement armés. Le degré de conflictualité entre ces trois écoles est arrivé à un niveau où la Marjaïa d'Ayatollah Sistani, chaque vendredi, quand la prêche commence par cette phrase, s'il vous plaît, faites tout pour ne pas glisser dans une guerre civile. Ça, c'est la première menace qui pèse lourdement sur l'Irak. La deuxième menace, c'est bien évidemment ce désengagement relatif occidental en Irak, même si le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé, a dit clairement devant toutes les caméras du monde que quoi qu'il fasse les États-Unis d'Amérique, nous, on reste militairement et diplomatiquement en Irak. C'était bien évidemment la phrase choc du déplacement d'Emmanuel Macron en Irak, qui a changé beaucoup de choses dans la perception irakienne. La deuxième menace, c'est cette implosion de l'État irakien. Pourquoi cette implosion? Parce que tout simplement, les Irakiens sont très fort pour parler aux Turcs, aux Égyptiens, aux Saoudiens, aux Américains, aux Iraniens, aux Français, mais ils sont incapables de se parler entre eux-mêmes. Ils sont incapables de se retrouver dans une conférence. Vous avez bien remarqué que dans cette conférence régionale, le président de la République n'était pas là. Le président du gouvernement régional du Kurdistan n'était pas là parce que tout simplement ces acteurs à la tête de cet État ne se parlent plus, n'arrivent plus à faire émerger un consensus et un contrat social. Alors donc dans cette situation de rupture, cette implosion irakienne de l'intérieur, c'est une des menaces qui pèse lourdement sur l'existence de l'État irakien. Et je ne parle bien évidemment pas de l'offensive turque dans le nord d'Irak. Une Turquie qui a installé 33 bases militaires dans le nord et entre dans la profondeur de l'Irak, c'est-à-dire dans la province de Sinjar, pour bombarder les bases militaires du PKK. Voilà la situation d'un pays qui est vraiment au bord de faillite.
Alors, Elie Tenenbaum, Adel Bakawan parle de risque de guerre civile en Irak. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. On l'avait évoqué avec vous, Adel Bakawan, dans la dernière émission. Est-ce que cela menace aussi, d'une certaine manière, l'Afghanistan? Et Adel Bakawan parlait d'une société irakienne très militarisée. C'est aussi le cas en Afghanistan?
Ah oui, et en Afghanistan, de manière beaucoup plus longue, en fait, sur le temps long, puisqu'on est sur... une société qui était fragmentée avant que la société irakienne ne le soit, en fait, parce que la fragmentation irakienne était sous-jacente, mais en fait, finalement, a surtout éclaté au grand jour après 2003 et après les recompositions post-chute de Saddam Hussein, alors que la société afghane, voilà, est était pétri de ces années de guerre contre les soviétiques, de cette guerre civile dès les années 90, qui montrait bien l'extrême fragmentation, militarisation, le phénomène des seigneurs de guerre avec les potentats locaux qui demeurent et qui fait d'ailleurs que le défi pour les talibans de rétablir une forme de stabilité est de taille malgré les cartes qui sont en jeu. Mais plus généralement, encore une fois, pour prendre un petit peu de recul, le chaos interne n'est jamais une bonne nouvelle dans une perspective de la stabilité internationale et des intérêts qui sont les nôtres aussi de pays européens et ailleurs dans le monde. Parce que tout d'abord, la mécanique de la violence engendre toujours une polarisation. C'est la dynamique de la vengeance. Et derrière, ça nourrit les extrémismes, évidemment. Et c'est comme ça que recrutent les organisations terroristes. Et donc, c'est toujours quelque chose dont il faut se méfier et essayer autant que possible de rabaisser ce niveau, parce qu'on le paye.
Marc Ecker.
Oui, un tout petit mot là-dessus. Il y a 3-4 mois, quand on faisait des projections sur l'Afghanistan, on disait si les talibans poussent, il y aura une reprise très forte de la guerre civile. C'était ça la perspective. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'armée s'est effondrée, les talibans sont arrivés à Kaboul. Et justement, ce qu'ils essayent entre guillemets de vendre aux populations, c'est leur capacité à mettre fin à la guerre. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont voulu d'emblée écraser la résistance au Panjshir. Et une des premières déclarations d'ailleurs des talibans, quand ils ont prétendu, alors il y avait encore visiblement encore des poches de résistance, mais quand ils ont dit ça y est, on a mis fin à la résistance au Panjshir, c'était de dire voilà, maintenant c'est vraiment terminé. Et on va pouvoir construire un projet de société stable.
Ça, c'est le discours aux talibans. Reste à voir quelle est la réalité. Alors, Alain Boinet, je le disais, pour les Occidentaux se pose aujourd'hui la question de savoir que faire avec les talibans. Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce qu'il faut couper toute relation ou isoler le nouveau pouvoir et miser sur une hypothétique résistance incarnée par le fils du commandant Massoud et des femmes qui manifestent à Kaboul? Est-ce qu'il faut au contraire s'engager rapidement auprès des talibans pour couper l'herbe sous le pied des Russes et des Chinois qui sont, il faut bien le reconnaître, devenus les nouvelles lunes politiques des maîtres de Kaboul?
Alors, comme le disait Marc Ecker, l'enjeu maintenant, c'est la fin de la guerre. La question, c'est est-ce que c'est la paix? Et c'est quoi la réconciliation aujourd'hui en Afghanistan? En tout cas, on est vraiment à main clé. Moi, j'ai le souvenir que Lardar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères algérien, qui a été le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afghanistan entre 1997 et 1999, puis en 2001, a dit récemment, dans un entretien au Monde, la paix était possible avec les talibans, mais encore eût-il fallu qu'on leur parle. Je rappelle que après le départ des talibans de Kunduz puis de Kaboul, ce qui n'était pas une défaite militaire, on a pensé qu'ils étaient vaincus. Grave erreur, ils sont rentrés chez eux. Et il y a eu les accords de Bonn. Et les accords de Bonn ont invité toutes les factions afghanes, sauf les talibans. Alors que l'objectif principal, c'était de faire la paix et la réconciliation. Mais quelle erreur politique C'est ce dont parle Lardar Brahimi. Quelle erreur politique on a faite? Et je pense que les Américains n'y sont pas pour rien. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va renouveler la même erreur? Alors évidemment, c'est pas simple de parler que les talibans, compte tenu de leur islam conservateur rigoriste. Mais il y a au moins 6 grands défis, qui sont les leurs, mais qui sont aussi les nôtres. Comme disait quelqu'un que nous avons en partage. Il y a l'aide humanitaire. Dans un moment où 14 millions d'Afghans souffrent de disette, voire de famine. Et là, il y a vraiment un signal d'alarme envoyé par les Nations Unies. Et si on n'apporte pas cette aide humanitaire massive, quelles en sont les conséquences? Les gens iront chercher à manger ou à boire là où ça se trouve, comme d'habitude. L'Afghanistan, c'est aussi un pays d'immigration maintenant régulier, notamment dans la jeunesse. L'Afghanistan, c'est 38 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 15 ans. Et dans 30 ans, ils seront 65 millions. Donc il faut peut-être traiter les problèmes de manière stratégique et pas seulement à très court terme ou dans les perspectives de la prochaine élection en France ou aux États-Unis. Il faut peut-être changer de logiciel de ce point de vue-là. Il faut se passer du point de vue de leur propre timing et pas seulement du nôtre. Et donc, je voudrais dire, c'est qu'il y a au moins 6 défis. Donc, en dehors de l'aide humanitaire, il y a celui du terrorisme, il y a celui de la drogue. La drogue, c'est 6400 tonnes de pavots, d'opium et d'héroïne qui représentent 84% des drogues opiacées répandues dans le monde, principalement en Europe. C'est les risques de mouvements migratoires massifs qui font très peur à la Commission européenne, qui ne s'intéresse qu'à ça, qui a une vision stratégique au-dessous de la moquette. Bien sûr, les droits humains. Et puis, voilà, les grands défis sont là. Et concernant le terrorisme, Alors le problème, il est simple, c'est qu'il y a Al-Qaïda, il y a Daesh. Bon, d'abord, alors Al-Qaïda, il y a cette antériorité de la lutte contre les soviétiques. Mais aujourd'hui, c'est une force résiduelle qui peut être maîtrisée par les talibans. L'attentat d'Al-Daesh, l'émirat islamique en Khorasan, aéroport de Kaboul, c'est une déclaration de guerre faite aux talibans. Et donc, pour les talibans, le problème est simple. D'ailleurs, ils se battent contre Daesh depuis longtemps. Les gens de Daesh sont concentrés essentiellement dans la vallée de la Kunar, donc sur la frontière pakistanaise. Moi, je crois que là, il y a une négociation à avoir avec les talibans sur cette question du terrorisme. Et pour les talibans, c'est une épreuve de vérité, mais aussi pour nous. Mais on ne peut pas négocier seulement sur le terrorisme, il faut négocier sur les 6 défis qui nous concernent également. Parce que les mouvements migratoires, la drogue, les droits humains, alors c'est sur les droits humains qu'il y aura la principale pierre d'achoppement, probablement, mais ça, ça se négocie. Alors ils ont évolué depuis 1996, pas assez à notre goût. Bah, où sont les lignes rouges, quoi, hein, dans tous les domaines. Mais là, maintenant, ce qu'on est en train de jouer, c'est, je pense que les isoler et les punir, c'est la meilleure manière de les radicaliser, c'est la meilleure manière de les jeter dans les bras d'Al-Qaïda et de Daesh, c'est la meilleure manière de laisser la place à des gens qui ont beaucoup moins de préoccupations sur les droits humains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, que ce soit les Iraniens, etc. Donc vraiment, on peut garder de l'influence auprès d'eux, et je pense qu'ils l'attendent. Il faut parler, il faut juste parler.
Sur l'exclusion des talibans, je ne peux m'empêcher de penser à Mariam Abouzaab, qui était régulièrement invitée de cette émission et qui, géopolitique, chaque fois sur l'Afghanistan, disait « mais il faut parler aux talibans, il faut parler aux talibans ». Elle est aujourd'hui décédée et nous pensons à elle.
Une grande dame.
Elie Tenenbaum.
Oui, je pense qu'il y a un point essentiel, c'est qu'on n'est plus dans le même monde qu'en 2001. En 2001, effectivement, les Américains, dans leur tradition un petit peu stratégique de reddition sans condition, avaient dit « les talibans sont hors jeu, il est hors de question de les avoir à bonne, et personne ne parle avec eux ». Et d'une certaine manière, ils avaient complètement isolé le mouvement. Aujourd'hui, en 2021, on n'est plus dans ce monde unipolaire où l'hyperpuissance américaine fixait les règles de qui avait droit de citer ou non sur la scène internationale. Et on l'a très bien vu dans ce qui s'est passé. Les talibans se sont désisolés par eux-mêmes. Évidemment, le lien avec le Pakistan, on en parlait. Le Qatar, qui leur a ouvert véritablement les yeux et sur le monde extérieur et l'accès au monde extérieur. La Russie. L'Iran, avec lesquels, adversaires historiques des talibans, avec lesquels ils se sont d'une certaine manière réconciliés sur un certain nombre de bases. La Russie, la Chine, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est arrivée en fait assez tardivement dans le jeu, mais qui est bien là. Tout un tas d'acteurs qui ne demanderont pas la permission aux Américains de parler, de travailler, de coopérer avec les talibans. Des acteurs qu'on retrouve aussi d'ailleurs en Irak. La conférence des voisins de l'Irak montre aussi que les Américains ne sont plus finalement ces grands ordonnateurs de la scène internationale, et qui fait que, encore une fois, le monde de demain, c'est évidemment les questions de terrorisme, mais c'est les questions de terrorisme dans une ère de multipolarité et de compétition de puissance, avec des États-puissances qui chacun poussent leur pion et finalement transforment radicalement le paysage.
Adel Bakawan, quelques mots en guise de conclusion.
Bah écoutez, une petite conclusion rapide, c'est je reviens à l'Iran, la présence iranienne en Irak. La gestion de cette présence iranienne en Irak est la seule peut-être perspective optimiste pour ne pas entrer dans cette guerre civile, pour ne pas entrer dans cette faillite. La question est posée aux pays des voisins, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, mais aussi les puissances du système international, les États-Unis d'Amérique, la France et bien d'autres pays. Comment coopérer avec la République islamique d'où l'Iran pour gérer l'impossible État irakien?
Merci Adel Bakawan. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Votre dernier ouvrage, L'Irak, un siècle de faillite, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci aussi à Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et co-auteur avec Elie Tenenbaum de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle chez Robert Laffont. Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, et Alain Boinet, fondateur de Solidarité International, qui a vu le jour en 1980 en Afghanistan. Alain Boinet, qui intervenait à titre personnel dans cette émission. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.